Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Et Guillaume?
Ah bah, il est absent pour des raisons personnelles.
Ah bah bien sûr, ah bah, le jour du bac philo.
Ah bah, il a eu peur de la concurrence, je pense.
De quelle concurrence?
Bah, moi, en philo, je la touche un petit peu. Hein,
ça, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, donc l'émission de vendredi, alors.
Alors, hein, un échec absolu.
Comment
bah,
ça?
Alors non, mais déjà, dès le matin.
Il fera 25 à Lyon, comptez 23 à Lille, à Paris et à Annecy, où Charline Vanhoenacker et toute son équipe sera présente cet après-midi au Festival d'Avignon.
Et voilà, il y avait 250 personnes qui nous attendaient dans le Palais des Papes.
Ah merde!
Ah bah si, bon, et après, Frédéric Bec Bédé s'est lâché.
Bec Bédé.
Ah bah si, il était là.
C'est vraiment la ville de la déglingue, Annecy. Hein, ça sniffe de la coke sur le cul des marmottes. Il y a même un centre des congrès qui va coûter 50 millions, rien à foutre du littoral. Tout pour la fiesta. Allez!
Mais c'était pas Bec Bédé.
Bah, c'était Guy.
C'était Guillaume.
Oh, bon, alors, et après, Yann Moix s'est énervé.
Que le type décide que lui seul a le droit de peindre ses putains de chaussures en rouge et qu'il en fasse une espèce de marque de fabrique, mais c'est un scandale.
Mais c'est pas Yann Moix, c'est Hippolyte Girardot, là, enfin.
Ouais, ah oui, c'est ça, et à la fin, c'était peut-être pas Damien Saez qui chantait.
What?
Bah, écoute.
Je suis Libyen ou Syrien, je m'appelle non, merci.
Ah.
Mais Alex, mais... c'est pas Damien Saez, c'est Frédéric Fromet.
Bon, alors moi, j'en peux plus de rien, je vais passer le bac philo, voilà.
Ouais,
voilà.
Eh ben, sujet, hein.
Oui.
Si l'habit ne fait pas le moine, le propos fait-il le prophète? Voilà.
Oula. J'ai un début d'AVC, là.
Bonjour la France Inter, nous sommes le 18 juin. L'occasion de rappeler qu'avant Roselyne Bachelot et Henri Guénaud, le général de Gaulle avait tenu lui aussi une petite chronique politique à la radio qui, semble-t-il, n'était pas passée inaperçue, si je ne m'abuse. Alors voici le menu de cette émission. L'Assemblée nationale s'est renouvelée il y a un an. À quoi ressemble-t-elle depuis qu'elle est en marche? Qu'elle est agitée par un François Ruffin ou qu'elle frôle la surchauffe au rythme effréné des réformes? Eh bien, il y a un an, ça s'est passé à peu près comme ça.
C'est un petit peu le désordre, non? Les Français vont...
Oui, mais les Français, ils aiment la nouveauté, mais pas le changement, je les connais. Donc je m'en occupe, moi.
Les enceintes connectées s'installent petit à petit dans nos foyers. Le gadget au pays a la voix. Il suffit de lui demander la météo ou de commander une pizza. En échange, il récolte vos données. Enfin, s'il les comprend, bien sûr.
Macchiato.
Je n'ai pas compris votre demande.
Macchiato.
Je n'ai pas compris votre demande.
Macchiato.
Vous avez demandé un espresso.
Macchiato.
Le prince Albert de Monaco est en visite sur ses anciennes terres d'Île-de-France. Sa majesté est dans l'Essonne, car il n'est pas que prince de Monaco, il est aussi marquis de Chili, duc de Mazarin, comte de Longjumeau et baron de Massy.
Non.
Il est hyper attendu.
On lève les assiettes ou le service ordinaire?
Jean-Pierre, mais le service de maman!
Et je vous présente celui qu'on risque donc de perdre en pleine émission parce que la Belgique joue en ce moment.
Et oui, bonjour, voilà. Charline Vanhoenacker. Et autour de la table, pour l'entrée en compétition des Diables Rouges, j'ai mis une toute belle équipe à 17h20. Celle qui va sans doute parler de la Brabançonne dans sa version flamande, c'est Mélanie Boer. Bonjour.
Bonjour, il y aura des pieds, il y aura des mains, il y aura des hanches, il y aura de la cumbia tout à l'heure.
C'était pas ça. À 17h30, celui dont le joueur préféré de l'équipe belge, c'est Hasard. Car pour rédiger ses chroniques, il compte beaucoup sur le hasard. C'est vous, Hippolyte Girardot, bonjour.
Tout à fait, ben aujourd'hui, on va jouer un père et gagne, voilà.
Très bien, c'est sobre. À 17h40, celle qui aime évidemment les diables, parce qu'elle a une sympathie for the devil, c'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex, on n'a pas parlé d'alcool.
Ah bah, c'est vous qui le faites. De quoi on va parler?
On va de ma plus grande source d'inspiration en tant que femme.
Moi.
Bécassine.
Ah,
pas loin.
Je me tourne vers celui qui va subir à la fois l'actualité et le match des Diables Rouges, donc. Vous effectuez votre service militaire au cinéma des armées, puis vous réalisez les films d'entreprise d'Air France. Et quand votre frère vous emmène dans un festival, là vous avez le déclic. Alors ensuite vous réalisez Dieu seul me voit, entre parenthèses Versailles Chantier, premier volet d'une trilogie, puis Liberté au Léron et deux adaptations de l'œuvre de Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir. Vous écrivez avec votre frère Adieu Berthe, l'enterrement de Mémé, et dans Comme un avion, vous vous attribuez pour la première fois le rôle principal, car vous êtes aussi acteur, vous avez notamment tourné dans L'élève du Cobu de Philippe de Chauvron, ou encore dans Chocolat de Roche Dizem. Vous êtes, you are...
Bruno Bonalides.
Yeah!
C'est oui.
C'est France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter.
But, 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 but.
Non, mais
ah non,
non.
Pardon. Ah non, c'est une blague.
Je vous l'aurais dit.
Je vous ai eu, Alex Vizorek. Alors, Bruno Podalydès, bienvenue dans cette émission. Vous avez réalisé Bécassine, qui sort en salle mercredi, avec vous dans un rôle, avec Emeline Bayard, avec Michel Villermoz, Karine Villard, Denis Podalydès, Josiane Balasco, Vima Laponce et Isabelle Candelier. Vous êtes plusieurs à l'avoir vu autour de cette table. Il y a Alex, il y a Juliette, il y a Hippo. Alex, je vous laisse parler avec Bruno Podalydès de ce film Bécassine.
Oui, ma première question est, les dernières adaptations des cultes de la bande dessinée, que soit Spirou, les Gaston Lagaffe, Boulébile et tout ça, c'était hyper dangereux de s'exposer à des critiques, ils en ont pris plein la tronche. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre Bécassine, vous ?
Eh bien écoutez, cher ami, je m'en prends aussi plein la tronche.
Mais est-ce que, c'est pas la même question, est-ce que vous vous y attendiez ?
Oui, c'était un projet difficile.
Mais donc vous aviez envie d'aller au combat de ça et de réhabiliter cette Bécassine que...
Eh bien oui, comment dirais-je, j'ai embrassé Bécassine tremblante dans mes bras et je lui ai dit, je vais te porter à l'écran et tu seras resplendissante.
Ma génération, on la connaît assez mal, cette Bécassine, pardon pour Juliette.
Non, Juliette la connaît pas.
Je vais vous dire les deux références que j'ai moi, c'est Chantal Goya, donc c'est quand même pas exceptionnel, et c'est Jean-Marie Le Pen dans Le Bébé de Chaud. Donc au final, qui elle est cette Bécassine si on ne la connaît pas?
Eh bien, c'était un petit personnage de papier. Il faut bien le rappeler. Il n'y a pas d'acte de naissance et Clocher les Bécasses n'est sur aucune carte. C'est un petit personnage imaginaire du début du siècle. Et je suis retombé sur cette bonne bouille de Bécassine et j'ai vraiment eu un, ça fait un peu médiatique de dire ça, mais c'est vrai, un espèce de coup de foudre, surtout si vous regardez sur Internet la couverture de l'album Bécassine Nourrice, où elle tient la petite houlotte dans ses bras avec un air farouche. Et ça m'a, il y a pas beaucoup, il y a un supplément d'âme par rapport à d'autres héros de BD et avec cette
Qu'est-ce qu'elle nous raconte sur la vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a encore d'actuel?
Rien.
Bah si, peut-être c'est ça qui manque, ouais. Il en manque des Bécassines aujourd'hui peut-être. C'est peut-être ça que vous vouliez dire ou qui vous a touché.
Ce que j'ai tenté de dire avec ce film très modeste, c'est que nous sommes tous des Bécassines. Nous avons tous quelque chose de Bécassine dont je pense qu'on peut j'espère grâce au film, enfin c'est moi qui parle hein, mais retrouver des émotions d'enfance très le plus simple basique, je sais pas comment dire.
Juliette a eu ce bout, ça m'a été délicieux, a-t-elle dit, parce que vous avez replongé justement dans
ah
ça.
Ah oui, moi j'ai retrouvé tel que ce que j'avais adoré chez Bécassine et effectivement ça m'a fait l'impression d'un c'était une saveur dans la bouche. Ce qui est quand même pas mal pour un film parce que c'est pas gagné hein.
Je suppose que je voulais pas déflorer votre chronique, vous allez en parler.
Mais
c'est ça.
Ne déflorer rien du tout. Ouais,
quant à revenir sur le film, c'est vraiment un film d'acteur parce qu'il y a des super seconds rôles.
Oui.
C'est ça aussi qui vous a plu de pouvoir donner à chacun. Il y a du jeu pour tout le monde, quoi.
Oui, oui.
Y compris vous, d'ailleurs.
Oui, oui. J'ai vu là l'occasion de me faire un petit moulinsard.
Oui, il y a de ça, parce qu'on est dans un château. Vous arrivez en tant que marionnettiste, vous venez de l'extérieur et vous amenez le rêve à cette baronne un peu en train de perdre ses sous et vous n'allez
marquise.
Et vous n'allez pas l'aider. Et en fait, les deux Podalydès ont un rôle un peu. Il y en a pas un pour sauver l'autre dans le film.
Non, on est ennemis.
Oui, mais il n'y a pas vraiment qui est sympa ni l'un ni l'autre.
Non, les enfants qui voient le film sont troublés parce qu'il y a pas, c'est pas manichéen.
C'est ça.
Ils me demandent mais ce Rastaquéros, il est gentil ou il est méchant Et là, je pars dans un rire.
Oui, bah oui, on vous connaît très bien.
Moi, j'ai une question. On n'a pas parlé de l'histoire encore. Quelle histoire vous avez choisie, puisque il y avait l'embarras du choix, j'imagine.
Oui. Eh bien, mon arche. Car c'est le mot à la mode maintenant quand on parle de scénario. Mon arche était autour de la petite loulotte dont s'occupe Bécassine, ce qui fait qu'elle devient un peu Mary Poppins dans le film. C'est la première fois que dans un film comme ça, je mettais des déclarations d'amour haut et fort. Je t'aime, ma loulotte.
Moi, j'ai une question quand même, c'est par rapport à la bande habituelle donc, qui est autour de vous et que vous connaissez bien, qui vous avez fait plein de films. La nouvelle venue, c'est Emeline Bayard, c'est ça son nom, qui joue donc Bécassine. C'est comment trouver cette actrice? par rapport à un personnage qui est très, qui est, c'est comme Mickey, quoi. C'est-à-dire que le personnage, même s'il est humain, dans la bande dessinée, c'est juste une boule, quoi, avec deux petits, c'est une poupée, quoi, non deux.
Oui, oui.
Donc comment ça s'est passé, ça?
Et Emeline m'est apparue un peu comme la Vierge, j'ai vu son visage dans le ciel. Et parce qu'avant j'avais vu Georges Brassens comme ça, deux jours avant.
Mais la moustache c'est un peu. Ça n'allait pas.
Mais d'ailleurs Brassens a fait une chanson sur Bécassine qu'on ne cite jamais et qui mérite d'être entendue et on se retrouve tout de suite après.
Eh ben d'accord, je vous prends au mot. Bécassine sort en salle le mercredi, le film de Bruno Podalydès. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h, toujours rien sur 0-0, le front 0-0, du, 0-0. Du football.
J'étais concentré sur l'interview, excusez-moi.
Oui, d'accord, je vous en prie.
Remettre sur le foot.
Très bien, ben, profitez-en pendant les Beach Boys, voilà. C'est ce que je vous propose. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a long time. Yeah. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming, California dreaming on such a winter's day. Les Beach Boys, California Dreaming, pendant que les images qui nous parviennent de la télévision viennent de Russie dans ce studio, j'en peux déjà plus.
On domine,
super. Les Diables Rouges, voilà. Les Diables Rouges jouent, voilà, ça va être un cauchemar jusqu'à 18h. Heureusement, il y a Bruno Podalydès avec nous.
Oui, ça c'est vrai.
On va parler Bécassine avec...
Avec Hippolyte Girardot, avec Juliette Arnault, avec Mélanie Bauer aussi.
Très bien. Et d'abord, nous allons parler d'information. Alors concentrez-vous, juste 3 minutes. Merci.
Jupiter, c'est un style. Ah. Jupiter, c'est la mode.
Oh.
Jupiter, c'est...
Le journal de presque 17h17.
Parce que je le vaux bien.
Et on commence par les titres.
Coupe du monde, oui. Encore. L'Allemagne s'est inclinée face au Mexique. Le Brésil et l'Argentine ont été tenus en échec.
Oui, comme le disait Alain Juppé, t'as beau être favori, les tours préliminaires, c'est souvent casse-gueule.
Laurent Wauquiez a limogé Virginie Calmels de la vice-présidence de Les Républicains car elle se montrait trop critique envers lui.
Laurent Wauquiez, le Kim Jong-un de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Et les brèves.
Oui, vous n'avez pas encore réussi à virer les brèves. Et on commence en souhaitant un bon anniversaire.
Oui, car c'est aujourd'hui l'anniversaire de Jamel Debbouze.
Ah, mais j'y pense peut-être que Laurent Wauquiez a tout simplement voulu lui rendre hommage en se séparant de son bras droit.
Virginie Calmels sera remplacée par Jean Leonetti comme numéro 2 des Républicains. Jean Leonetti, père de la loi Leonetti sur... la fin de vie.
Voilà, il n'y a plus besoin de faire les vannes.
Politique encore, Jean-Marie Le Pen est actuellement hospitalisé pour un état de fatigue générale.
Voilà, il n'a rien trouvé de mieux pour esquiver la fête des pères cette année.
Passons au président. Emmanuel Macron sera reçu par le pape François le 26 juin lors d'une visite officielle.
Et oui, ça va être cocasse de voir quelqu'un qui croit en Dieu et quelqu'un qui croit l'être. Ça va être très émouvant.
Le président qui avait déclaré la semaine dernière que les aides sociales coûtaient un pognon de dingue, hein, rappelons-le.
Oui, et qu'en pense Agnès Buzyn, ministre de la Santé, Caroline Roux lui a demandé sur France 2.
La fin de sa phrase était intéressante.
Ça veut dire que le début n'était pas.
Et ça ne fonctionne pas.
On est d'accord que vous ne l'auriez pas dit comme ça. Vous pouvez répondre. Vous n'avez pas le droit de répondre.
Chacun son style.
Elle a buggé.
Ce matin, les lycéens ont planché sur les épreuves de philosophie.
Alors ça, je suis hyper fort.
Je vous donne le sujet. On trouvait par exemple, le désir est-il la marque de notre imperfection ?
Alors ça, c'est pas un sujet pour moi, ça c'est pour Tariq Ramadan plutôt. Ça.
Okay, voilà. Autre sujet.
Autre sujet.
Peut-on renoncer à la vérité ?
Ah, ça c'est pas un sujet pour moi, ça c'est un sujet pour Nicolas Sarkozy, ça.
Oui, voilà, bon, l'expérience peut-elle être trompeuse ?
Ah, ça c'est pas pour moi non plus, c'est pour Gérard Collomb. Ça c'est, voilà.
Donc, bon, allez, un sujet pour
un
vous,
sujet pour
la
moi.
Coupe du Monde.
La Coupe du Monde, voilà. En conférence de presse, Benjamin Pavard a eu droit à une petite question sympathique.
Adil Rami vous surnomme Jeff Tuch. Comment vous réagissez à ce surnom et quel point commun vous trouvez-vous avec ce personnage ?
Écoutez, c'est bien marrant au début, mais au bout d'un moment, voilà, c'est... Ok ?
Merci.
Voilà le point commun avec Jeff Tuch, c'est peut-être une facilité à façonner un raisonnement.
Excusez-moi, c'est qui Benjamin Pavard ?
Mais c'est un joueur de l'équipe de France.
C'est quoi Jeff Tuch ?
Vous ne me facilitez pas la vie.
On a un grand sens de l'autodérision. Donc
voilà,
allez.
Oui. Les autres infos Coupe du Monde.
Après le but marqué contre l'Allemagne, un mini-séisme a été observé au Mexique causé par des bons de supporters.
Oui, si l'Allemagne avait marqué, Angela Merkel aurait sauté. Et,
mais enfin, mais vous n'allez pas faire une vanne grossophobe, non ?
Pardon.
Puis moi, je dois m'attendre à une vanne raciste. Non, comment ça va se passer ?
Plus
là
loin, c'est dans les brèves.
D'accord, on termine par la Coupe du Monde alors. Parce que l'attaquant de la Croatie a été renvoyé par son sélectionneur qui l'accuse d'avoir simulé un mal de dos pour ne pas entrer en jeu.
Oui, on a même retrouvé dans la chambre de ce joueur des posters de Tsonga et de mon fils.
Allez, les brèves.
Oui, selon une étude, les leftos ont un risque moindre de souffrir de dépression. Alors évidemment, sauf s'ils se lèvent tôt pour animer la matinale d'Europe 1 et qu'ils ne sont pas reconduits l'an prochain, là, ils dépriment.
Allez,
grave.
La dernière.
Et la dernière, un bébé né dans le RER A. Quand un bébé naît dans un avion, il a la nationalité de la compagnie aérienne.
Et du coup, s'il naît dans le RER,
eh ben, il risque d'être nationalisé roumain. C'était la vanne raciste.
Ah, d'accord.
Je vous l'avais promis, il fallait qu'elle vienne, quoi, si vous voulez.
Bien sûr.
Voilà.
17h26 sur France Inter, Bruno Podalydès est en notre compagnie, car se rend salle mercredi Bécassine. Nous allons revenir sur le personnage tout à l'heure avec Juliette Arnoux. Et en attendant, on va aborder ce premier sujet avec vous et avec Mélanie Bauer et Hippolyte Girardot qui sont là. Les députés fêtent leur première année à l'Assemblée. L'hémicycle a changé de visage avec l'arrivée de la société civile et de la vague En Marche. Arrêtez de regarder ce match! Parce qu'on a des écrans dans le... Hein, je vous vois regarder le match!
La vague En Marche,
alors,
on vous écoute en plus.
La vague En Marche. Est-ce que en un an, la vie des... Regarde, non, ici.
La vague
ici,
en match,
les auditeurs aussi. Les auditeurs, je vous vois chez vous. Je vous vois, vous éteignez ça tout de suite. Est-ce qu'en un an, la vie du Parlement a fait renaître l'intérêt du citoyen? Est-ce que chez les néo-députés de la Macronie, le management du groupe LREM est inspiré du monde de l'entreprise? Autrement dit, est-ce qu'en un an, les assistants parlementaires sont passés de l'emploi fictif au burn-out?
Magali, tu vas où là?
Je suis désolée, mais j'en peux plus là, Andrea. J'en peux plus, tu m'as pompé toute ma sève.
Je sais, tu me l'as déjà dit, mais c'est pas une raison. Écoute, c'est normal d'être un peu fatiguée. Tu vas prendre la gelée royale, viens au bureau à vélo. Tu vas voir, ça va te donner de la force.
Non, je te jure que là, si je m'éloigne pas pour de bon, je risque de m'en prendre à toi. Physiquement.
Non mais attends, c'est comme ça que tu me remercies? Je t'ai formé moi, pendant des années. Je t'ai présenté tout Paris.
Attends, non, c'est pas possible, je veux plus entendre tout ça, ok? Je veux juste partir.
C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. T'es viré.
10%, la série de France 2, du Camille Cotin et Amélie Etas. Alors, attention, nous sommes concentrés.
Oui,
nous sommes concentrés sur la question. Nous sommes concentrés sur la radio et non pas sur la télévision.
On est une équipe.
Attention. Bruno Podalydès. Voilà, donc ça fait un an qu'on a la nouvelle assemblée avec plein de petits nouveaux, etc. Est-ce que vous notez une différence en tant que citoyen? Est-ce que vous observez différemment? Est-ce que ça a suscité chez vous un regain d'intérêt?
Quoi donc,
le débat, l'Assemblée en général, oui.
Non, ça, je trouvais mignon d'avoir des députés peu formés au début. Moi, ça m'inquiétait pas, je trouve ça plutôt bien. Bon, je les voyais faire
des photos
en plein hémicycle. Bon.
C'est-à-dire que vous les avez un peu accompagnés dans... On a tous, grâce à eux aussi, découvert le fonctionnement de l'Assemblée, parce qu'il y a eu beaucoup de papiers, de reportages, on était un peu comme glissés dans leur cartable.
Oui, j'ai 500 balles d'argent de poche, chouette.
J'ai noté la phrase dans l'article d'aujourd'hui, il y a de la polyphonie, mais pas de cacophonie. Ça, je trouve remise...
C'est beau.
Oui.
C'est beau. C'est dans le groupe La République en marche, parce qu'il y a beaucoup d'articles à l'issue de cette première année qui expliquent qu'il y a plusieurs styles. Il y a ceux qui sont à la limite de la fronde.
Pour l'instant, c'est des... On les plaint aussi, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de sujets clivants, comme on dit maintenant. Le glyphosate, ils ont dû certains avaler leur salive de gauche ou de droite. Enfin, il y a certains sujets qui sont pas polarisés comme d'habitude.
Vous trouvez un côté bon soldat, alors, parce que vous avez raison, il y a plusieurs sujets, notamment celui de l'Aquarius aussi, où certains ont peut-être envie de desserrer les dents et ne peuvent pas.
Oui, il y en a un qui dit c'est la dernière fois que je vote une loi sans moufter.
Ah bah c'est con de s'y prendre mal.
La dernière fois.
Vous voyez tout ça un peu comme vous regardez tout ça l'hémicycle comme un peu comme un théâtre où ils se jouent des coups de gueule, des débats, des qu'est-ce qui un aspect vous amuse ou vous êtes curieux de certains aspects de la vie.
Oui, cette capacité qu'ils ont souvent d'écouter d'une oreille et de faire un truc de l'autre. Enfin, que le petit journal avait à l'époque beaucoup montré. Mais ça veut pas dire qui travaillent pas ou qui sont dans la somnolence.
Ceux qui font ça, c'est déjà ceux qui sont là.
Déjà. Saluons les présents.
Et ce sont même ceux qui ont interdit le portable à l'école, qui font des selfies dans l'hémicycle. Rappelons-le aussi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des figures de l'Assemblée qui ressortent ? Est-ce qu'il y a des noms que vous retenez ou... Où il y a une forme de nébuleuse comme ça sans...
Oui, parce que j'ai même découvert que c'était l'AREM et pas LREM.
La République En Marche, LREM.
Ouais, mais on dit LREM ou non parce que j'ai...
On dit
l'AREM, j'ai vu un truc différent.
On ne s'est pas encore bien défini ça.
LREM, ils disent, ouais, je crois.
LROM.
Ça a l'air de vous convaincre.
LREM. Non, c'est une blague.
Je ne sais pas voir le foot.
Je suis myope en plus.
Elle ne sait pas le voir.
Bon, vous savez quoi ? Un petit peu de musique, Mélanie Boer.
Après la rame ?
Oui, évidemment. On ne sait toujours pas comment on dit. Vous avez raison, Bruno Podalydès.
C'est
entre les Républicains et le rhum.
Oui, c'est vrai.
Enfin bon.
Bon, alors comme il n'y a pas que Paris et la Bretagne dans la France, je vous propose de tenter le TGV pour aller poser vos pieds dans les calanques et écouter de la cumbia originale avec un groupe bien connu des nuits marseillaises, Cumbia Chicharra, et leur troisième album Hijo de Tigre, traduisez Fils de Tigre. Nouvel album du collectif né en 2001, comme l'espace, pour un son qui fait voyager en bougeant les hanches.
C'est très joli Mélanie, moi j'aime beaucoup.
Alors pour bien expliquer cette musique féline, commençons par les fondamentaux. Mais qu'est-ce que c'est la cumbia ? Il va falloir un petit peu de souplesse et d'attention s'il vous plaît. D'abord, vous posez votre pied droit en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Guinée équatoriale, et vous obtenez le premier pas du rythme et de la danse de la cumbia. Là, vous tirez un petit peu sur les adducteurs de l'esclavage, ça fait mal, et vous faites un petit saut avec votre autre pied jusqu'à la colonisation de la Colombie. Ça tire un peu, mais avec la mâchoire bien laxe, vous commencez à chanter en espagnol. Enfin, en maintenant votre esprit bien ouvert et en gonflant vos poumons d'air, vous gardez en tête les racines de la culture indienne et vous soufflez par petits à-coups dans des flûtes. Et voilà, la cumbia.
Loin du Panama, ça, comme musique.
Oui, c'est pas moi, ouais.
Eh ben, ils vont danser encore un peu, je pense, ces gens-là.
C'est un pastis, en fait.
Bon, c'est intéressant, la cumbia, mais ça date du XVIIe siècle, et depuis, on a inventé les disques et les aéroplanes. Alors, cette musique n'est pas restée figée, elle a voyagé en Amérique du Sud, au Panama, en Afrique, en Europe, et finalement à Marseille, grâce à son carrefour de culture, son soleil et sa culture festive. Elle a encore évolué, c'est de nouveau métissée pour devenir encore plus une nouvelle cumbia, qui sous les couleurs du tigre se mélange ici à l'afrobeat nigérian, à la folie festive des Balkans et même au dub jamaïcain. Si la baila, si la bossa, si la lleva tan bonita,
Et là, donc, on est à Marseille.
Si.
Allez, l'OM !
Alors, Cumbia Chicharra sont bien évidemment en tournée pour ce nouveau disque un peu partout en France, mais aussi dans le monde. Ils ont d'ailleurs composé ces chansons en partie en jouant au Chili. Et vous imaginez que c'est pas simple, hein, gérer un collectif tel que celui-là. Ils sont une grosse dizaine à jouer ces rythmes chauds sur scène. Heureusement, ils sont zen, très zen, voire même psychédéliques, parfois avec une tendance à aimer la trance d'origine indienne, comme sur ce titre que je vous conseille, Vasistas Peyote. Chara qui chante Vasistas Peyote.
Oui,
c'est très joli.
L'album s'appelle Hijo de Tigre.
Merci Mélanie Boer pour cette découverte sur France Inter par Jupiter.
Ça marche bien avec le foot.
Oui, Bruno Podalides est avec nous. Bécassine sera en salle mercredi avec notamment Emmeline Bayard qui joue le rôle de Bécassine, Michel Villermoz, Karine Viard, Denis Podalides, Josiane Balasco, Vima Laponce et Isabelle Candelier. Alex Vizorek, on en est où là si vous deviez revenir
domine,
à vos premiers
domine,
amours de commentateur?
Voilà, la Belgique se crée des occasions, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé le fond des filets. Voilà,
hein. C'est comme ça qu'on dit.
Oui. J'essaye de faire court, ne m'obligez pas à rallonger.
Oui, ça n'a pas l'air très compliqué. Autour de la table, Mélanie Boer qu'on a entendu, Hippolyte Girardot, Juliette Arnaud. Et Hippolyte Girardot, eh bien, c'est à vous, figurez-vous.
Déjà, mais c'est
oui.
Formidable. Parce que justement, je voulais parler de plein de choses. Mais en tout cas, bien que l'événement de la semaine soit la sortie, bien sûr, de Bécassine mercredi.
C'est vrai.
Ou alors, éventuellement, un Belgique-Panama à l'instant. Voir le bac philo de ce matin, on ne peut échapper au tsunami médiatique de Monsieur et Madame Carter, alias Jay-Z et Beyoncé avec leur clip tourné au Louvre, clip titré Ape Shit. Ape Shit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire en rage, en vrille, ça veut dire énervé. Ape Shit. Et le clip montre le couple en visite au Louvre, le musée du Louvre. On voit Beyoncé plier des draps pour se faire une cape, Jay-Z essayer différentes tenues qui matcheraient élégamment avec les tableaux de Jericho ou David, et des danseuses qu'on croirait nues au premier abord, mais pas du tout. Non, elles sont mille fois plus habillées que les statues qui les entourent. Tout ceci est d'un esthétisme somptueux qu'on désignait comme pompier dans les tableaux du 19e siècle, où disons, était beau un coucher de soleil ou un drapé de soie rouge dans une lumière dorée. Bon, 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 très bien, très bien, très bien. Et pourtant, la chanson s'appelle Ape Shit, qui veut dire donc enragé, énervé, en vrille. Et pourquoi ils sont énervés, ces deux-là, franchement? Dans leur tenue à 10 000 boules et des salles vides du Louvre. Alors j'ai été checker les paroles et j'ai tout compris. En fait, ils ont la haine, ces deux-là. Ils le disent avec talent, mais ils le disent. Alors je vous traduis, bien sûr. Jay-Z dit, j'ai dit non au Super Bowl. C'est eux qui ont besoin de moi et pas le contraire. Bon, et pan dans la tronche donc de Super Bowl, voilà. Il est bien énervé. Et aussi, il dit, j'ai nagé dans une super foule à Liverpool comme un putain de Beatles. Voilà, la haine. Voilà la haine, je te dis. Alors Beyoncé, qui elle, est le good cop par rapport à son mari qui est le bad cop, elle dit... Je reviens pas qu'on l'ait fait. Est-ce que t'as déjà entendu la foudre devenir dingue? C'est vrai que moi, perso, j'en reviens pas. Je trouve ça dingue, effectivement, ça. Comment ils ont pu tourner au Louvre? Alors, dans le Parisien ce matin, la direction du Louvre nous rassure. Ils disent, ils sont venus visiter le Louvre à 4 reprises ces 10 dernières années. Ah bah oui, c'est vrai, quand même 4 fois en 10 ans, ça c'est super. Et d'ailleurs, c'est plutôt mieux que la majorité des Parisiens. Bref. Et la direction ajoute, ils nous ont proposé le clip. Bon, le délai, effectivement, était très court, mais il montrait un vrai attachement au musée et aux œuvres qui les ont marquées. Mais la direction ne dit rien du chèque qu'ils ont fait pour louer le Louvre. Néanmoins, donc la dernière fois qu'ils sont venus, c'était en 2014, Jay-Z et le couple Carters ont vidé le Louvre pour que leur gamine joue avec les bouches d'aération et que Queen Bee prenne un selfie devant une statue d'Apollon qui, en effet, semble lever son bras pour se photographier avec un smartphone en marbre. Elle n'avait pas non plus oublié de se photographier en train d'imiter le sourire de la Joconde, comme des milliers de visiteurs le font quand ils ont la chance qu'on leur vide la salle, bien sûr. Donc je comprends mieux déjà le concept, les œuvres qui ont marqué le couple Carter. Et à mon avis, il y a aussi le chèque des Carters qui a marqué la direction du Louvre. En fait, le couple Carter, c'est métaphorique. C'est une entité, comme Alex et Charline, comme Meurice et le reste du monde, ou encore Emmanuel et Brigitte Macron, qui, eux, c'est un très, très bon couple Carter, qui s'était servi du Louvre, d'ailleurs, il y a un an, pour se présenter au monde et pouvoir dire, comme Queen Bee... Comment ? J'en reviens pas d'être arrivé là. Arrivé là. Bref. Comment trouver une réponse à tout ce fatras, n'est-ce pas ? Parce que... C'est peut-être dans les épreuves de ce matin de philosophie que passaient aujourd'hui 753 148 lycéens et candidats libres qu'on trouvera une réponse. Un des sujets en était « Peut-on être insensible à l'art ?» Sujet classique qui fait référence à Emmanuel Kant, dont le travail sur l'esthétique fait évidemment référence. En tout cas, en classe. En résumant, Kant dit « Ce n'est pas vraiment l'objet qui est beau, mais la représentation que je m'en fais. » Car l'art ne veut pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. C'est exactement ce qu'on perçoit. Le clip « Ape Shit » tourné dans les salles du Louvre, l'intronisation de Macron sur le parvis du Louvre, c'est une belle représentation d'une chose. Mais la chose elle-même... C'est moche. Oh, ça m'énerve. ça me rend ape shit.
Hippolyte Girardot, merci. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette analogie, mais vous avez raison.
Le Louvre, c'est un gros machin qui sert de caution, quand t'as les moyens en tout cas, à te donner du pouvoir.
Et dont on cherche à ce que le prestige rejaillisse sur vous.
Ben, tu peux y aller, il y a, je sais pas, 30 000 œuvres, hein, tu peux y aller, il y en a du prestige là-dedans.
Bruno Podalydès, c'est un fantasme de réalisateur de pouvoir tourner dans le Louvre.
Je voulais pour Bécassine tourner aux Tuileries. Si elle avait été à Paris, mais finalement elle s'arrêtait avant.
Elle est pas arrivée. On a spoilé là un peu.
C'est compliqué de filmer dans ces endroits-là. C'est des questions administratives dingues ou
J'ai pas essayé pour.
Tiens, Belphégor, c'était tourné au Louvre ou pas?
Oui.
C'était dans des décors.
Mais pas que.
Mais la question peut traverser. Est-ce que pour le Louvre, c'est pas une bonne publicité d'avoir ces deux-là dedans?
C'est justement la vieille question. Tu vois, à qui profite le crime? Mais bon, c'est vraiment une question qui mériterait d'être posée. Disons, dans un espace un peu plus grand que...
Sachez
simplement...
que quand vous visitez 4 fois le Louvre, donc vous avez le droit de tourner dedans.
Exactement, 4 fois.
Il y a des petits tickets.
Des fois est offert.
Allez, avant de retourner à Bécassine, qui sort en salle mercredi, le film de Bruno Podalydès, avec Juliette Arnault, qui va nous parler du personnage, on va aborder ce deuxième sujet sur la commande vocale via l'enceinte connectée. C'est l'avenir, les amis. Enfin, c'est surtout l'avenir de Domino's Pizza, hein, ça je vous l'annonce. Il suffira de dire « Ok Google, je voudrais une pizza 4 fromages » et bim, elle arrive dans votre cuisine. Ça c'est en attendant de pouvoir imprimer sa pizza grâce à l'imprimante 3D directement, bien sûr, reliée à l'enceinte connectée. Enceinte qui, rappelons-le, est suspectée d'être un mouchard, un agent des GAFA. Mais ça a toujours existé, notez, dans l'ancienne technologie, il suffisait d'un haut-parleur de téléphone laissé allumé pour déclencher tous les ennuis.
Lucie! Je
dis que tu fais chier!
C'est à moi que tu parles, Max?
Ben, t'étais pas obligé de leur filer notre chambre.
Ils ont dû appuyer sur la touche bis sans faire exprès.
Mais tu voulais que Mathilde soit bien. Elle est au bout du rouleau.
Je vais me te dire, ces derniers temps, je la trouve casse-couille, hein. Limite aigrie.
C'est dur, hein, moi, je vais te dire. Je la trouve courageuse pour rester avec Jean-Claude.
Ah, bah ça, c'est sûr. Faut se le fader, mon Jean-Claude.
Après tout ce temps, je sais pas comment elle fait.
Oh, bah, écoute, ça va, hein, oh. On sait que Jean-Claude, c'est un loser.
Tu sais, de toute façon, je crois qu'avec Jean-Claude, il se passe plus grand-chose.
On devrait peut-être raccrocher, là.
Bon, enfin, Mathilde au Plumard, ça a jamais été le carnaval, hein. Déjà, il y a 20 ans, on l'appelait la planche à pain.
Bon, on raccroche.
Les meilleurs amis du monde, film de Julien Rambaldi avec Léa Drucker, Pascal Arbillot, Marc Lavoine et Pef. Alors voilà pour ces enceintes à commande vocale qui font la une de nos journaux aujourd'hui, notamment Libération. Enceinte connectée, la voix de son maître, titre Libération. Il y a Google Home, le HomePod qui est lancé aujourd'hui en France, donc qui marque, ça y est, l'arrivée et la concurrence. Celle facilite l'accès aux services connectés. Donc voilà, OK Google, fais ceci, fais cela, je voudrais la météo, une pizza, etc. Bruno Podalides, c'est l'idée que vous vous faisiez du progrès technologique et de l'avenir.
Non, ça fait un peu peur. Je me disais, les enceintes... Si par exemple vous dites à votre fiancé ce soir petite, je te prends, je te retourne, et le lendemain on reçoit un service à crêpes, tout peut être interprété bizarrement. C'est un peu.
Il y a sujet à sketch ou à comédie, ça, oui. C'est certain.
En tout cas, si votre compagne s'appelle Google, ça va être un problème.
C'est vrai. Mais alors, plus on parle de protéger nos données et plus on est conscient de ça, et plus les mouchards avancent dans nos intérieurs, est-ce que finalement ces objets-là sont plus forts que tout et bien qu'en étant conscient, on se dit ah, allez, c'est quand même pratique. Peut-être quand Bécassine sortira en DVD, etc., en streaming, on pourra dire je voudrais voir Bécassine, bim, et hop, ça apparaît.
Ouais. Ouais. Mais c'est. Alors, je suis féru de technologie.
Oui, vous aimez ça?
Oui, j'ai eu un GPS très tôt, un appareil numérique très tôt. Mais là, pour tous ces trucs connectés où on parle, dans Radio Berthe, j'avais déjà mis mon frère en situation où il appelait une entreprise de pompes funèbres, il devait dire les mots au téléphone décédé, comme ça, pour, vous savez, la touche 8, décédé. Et ça, c'est le saut, je le fais pas du tout, moi, de parler à une machine, même à le truc Siri, là, je peux pas, moi. Et du coup, je suis étonné, si on sait qu'on a une enceinte qui vous écoute, ce qui donne comme conseil qu'il faut effacer régulièrement ces conversations. Donc, si tous les soirs, avant de se coucher, on éteint, on efface sa journée vocale. Enfin, c'est le Big Brother, là, est vraiment...
Ça déclenche quelques fantasmes. Hein.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté Facebook pour la raison de « je ne veux pas donner mes données » ? Certains ont dit « c'est chronophage », enfin, il y a eu deux, trois... Il y a des gens qui sont partis, mais j'ai peu entendu de gens dire « non, mais je suis trop observé, je revends mon iPhone ou je ne veux... »
Peut-être conscient de mettre moins de données personnelles sur ces pages,
oui.
Juliette Arnault.
C'est ça qu'on a fait, surtout.
Bah, si vous n'êtes plus sur les réseaux sociaux, tweetez-le moi, comme ça, moi, j'ai l'occasion de...
Mais par Facebook, tweetez-le moi, voilà.
Si l'enceinte connectée entend que vous tirez la chasse d'eau et vous livre du papier toilette, parce qu'elle sait déjà que vous n'en avez plus, c'est merveilleux, c'est
le
bonheur.
C'est formidable. Hippolyte, ça vous seriez...
Non, moi, je trouve ça fascinant parce que je pense que ce qui est génial, c'est que si on trouve les bons gadgets technologiques, les gens sont tout à fait prêts à se mettre en prison sans aucun problème. C'est tout à fait naturel. Il suffit que ce soit attractif, tu vois. Et en fait, le fond du truc, moi, tout le monde n'y pense pas, quoi, parce que le gadget est trop mignon, quoi. C'est vraiment qu'il est mignon, quoi. Ça me fait tellement rigoler, quoi. Parce qu'elles sont très mignonnes, ces petites enceintes.
On peut peut-être les niquer en mettant un en face de l'autre. On met un Google Home et un HomePad et on les laisse discuter entre eux.
Ça se fait déjà.
Ah, c'est vrai?
Les enfants jouent à ça, ouais.
Ah, c'est pas vrai.
Ils font parler Siri avec la Google Bunch, etc. Ils jouent énormément.
On vit dans un monde merveilleux. Vous savez quoi? On va les laisser se concurrencer et se tuer entre eux. Et puis, on sera tranquille. Et puis, espérons qu'on survivra, quoi. Bruno Podalides en notre compagnie, puisque son film Bécassine sort en salle mercredi. Juliette Arnault, vous, c'est votre personnage, vous avez dégusté le film parce que c'est votre personnage favori aussi.
Voilà, ouais. Et tout part de puisque tout le monde en a parlé, hein, c'était le sujet de philo. Moi, celui de sujet de philo, c'était un sujet de série Elle qui m'a interpellée et qui est « Peut-on renoncer à la vérité ?» À l'intérieur de moi, je me suis fait « c'est touffu ». Et puis t'entends, parce que moi, une question comme ça, j'ai répondu oui, non, puis je suis ressortie, enfin bon, bref. Et j'ai pensé juste après, merci mon Dieu, ou qui que vous que soyez, que j'ai pas besoin de disserter de rechef. Néanmoins, je vais prendre ma une part de la charge et rétablir deux, trois vérités dont le traitement m'a singulièrement gonflé ces dernières années à base d'appropriation culturelle. Alors premièrement, Jeanne d'Arc n'appartient pas au Front National, ni au Rassemblement National, ou comme ça leur chante, Jeanne d'Arc ne leur appartient pas plus que Louis Le Gros ou Madame de Montespan. Au passage, merci Luc Besson, et je dirai pas ça souvent dans ma vie. Deuxièmement, plus récemment, au Bella Ciao n'appartient pas à la Casa des Papels, et encore moins à Maître Gims. C'est un chant de partisans italiens face au fascisme, la guerre, pas la guinguette. Et enfin, troisièmement, Bécassine n'est pas la cousine à Chantal Goya. Tout le monde le pense depuis 1980 et c'est usant grâce à votre film, Monsieur Podalytès. J'espère que ce travestissement de vérité va prendre fin. Remettons l'église au centre du village. Bécassine, c'est la cousine de Marie Quilouche, qui louche donc, et qui en plus est méchante. Dans le même temps, Bécassine est la plus gentille fille du monde, mais n'a pas de bouche. Et porte toujours la même robe, et on ne sait pas si sous sa coiffe immaculée, il y a des cheveux. Imaginez, deux secondes, une héroïne de Disney sans veuche. Impossible. Les cheveux longs, c'est la marque des filles. Sinon, on les reconnaît pas d'un garçon et on peut pas lui faire consommer du produit capillaire. Merci L'Oréal. J'ai l'air d'exagérer. N'oubliez pas ce qui a fait connaître Nabila, c'était son cri du cœur. T'es une fille et t'as pas de shampoing. Eh oui, elle est quand même devenue célèbre sur ça. Mais tout ça, pas de bouche, pas de veuche. Quand t'es petit, tu t'en bats les couettes. Ça te va même impeccable. Bécassine, c'était notre pote. Enfin, c'était ma pote, en tout cas, celle de quand j'étais petite. C'était avant Fantomette, avant Mafalda, avant Lucie Van Pelt. Vous savez, c'est la bêcheuse dans Snoopy. Oui, pote, parce que même si elle est adulte, Bécassine, vu qu'elle a un taf, et ça sera bien la preuve que c'est une adulte, nous, quand on est petit, on pense qu'elle est petite. Même si elle est bonne, petite paysanne placée chez les plus riches, elle reste petite. Elle est petite à l'intérieur. Alors les adultes, ils disent Bécassine à la naïveté qui confine à la bêtise. Nous, on avait surtout l'impression qu'elle était notre cheval de Troie chez les grands. Mmh. Et puis, on trouvait chacune de ses idées magnifiques. Un seul exemple. Dans un de ses premiers boulots, on lui ordonne par exemple de ranger une cuisine. Bécassine se gratte le coin du sourcil et se lance. Et alors, vas-y qu'elle te range les tomates et les cerises avec les bols rouges et le lait et le fromage avec les assiettes blanches. Évidemment, elle se fait super engueuler et le malentendu opère, alors que tout ça relève du pur génie décoratif, les adultes ricanent. C'est la preuve qu'elle est con comme un ballon qui disent. Mais c'est pas ça que nous on pensait. Le truc, c'est que Bécassine, elle s'en fout des adultes de toute façon. Le truc de Bécassine, c'est Loulotte, qui n'est pas sa fille, mais qu'elle élève. Celle qui est censée s'en occuper, c'est la marquise de Grantaire, qui est la patronne de Bécassine, qui est propriétaire d'un caractère à l'aune de son nom, et qui a adopté Loulotte. Loulotte, c'est sa pupille, mais c'est Bécassine qui l'aime. Bécassine et Loulotte ont un lien indéfectible, le vrai lien d'amour maternel entre deux filles mal nées. La petite Loulotte, qui annonce avec sa coupe garçonne d'autres femmes, des émancipées, qui vont se ficher pas mal d'être mal nées. Ça, c'est une des nombreuses choses que Bécassine nous a enseignées, et croyez-moi, c'est pas rien. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci. Bruno Podalydès, c'est peut-être une réaction ou l'exemple que Juliette a donné sur la cuisine et le fait qu'elle range les choses par couleur et on dit elle est con et en fait c'est magnifiquement poétique, c'est ça la nuance du personnage.
Ah ouais, tout à fait, et j'ai beaucoup aimé que vous pointiez cet épisode dans les albums que je voulais mettre dans mon film mais je pouvais pas m'étendre trop longtemps sur le roman d'apprentissage de Bécassine, enfin toute la jeunesse. Mais oui, qu'elle range les objets par couleur, c'est beau et visuel. Ouais.
Mais on voit dans le film qu'elle est créative parce que elle essaye de faire des machines improbables. Elle aurait pu gagner le concours Lépine. C'est d'ailleurs un peu une partie de l'intrigue.
Mais oui, mais je me suis toujours attendri vers, vous savez, par exemple, le coquetier, ce truc qui décapite les œufs, là, qui marche vachement bien. Il y a beaucoup de sceptiques, mais je me fais fort de vous démontrer. Là, on dirait des dents de requin un peu, et je claque, et ça vous... Les Versaillais adorent, à chaque fois, c'est le roi est mort, vive le roi. Et donc, dans cet esprit, évidemment, Bécassine s'en donne à cœur joie. Ouais.
Et elle est sur grand écran grâce à Bruno Podalydès. C'est à partir de mercredi dans toutes les salles. On va aborder ce dernier sujet avec vous. De Versailles, on va passer à Monaco. Le département de l'Essonne se prépare à la visite du prince de Monaco dans ses anciens fiefs de Massy, Chilly et Longjumeau, dont il est respectivement baron, marquis et comte. Albert II rencontre ses anciens sujets, affranchis par la République, mais qu'il vient visiter quand même. Alors c'est inattendu, non? Espérons que les établissements de la région ont bien été mis au courant, sinon ils risquent d'être surpris.
Messieurs.
Décomptez-moi une bonne table, chambellan. Je reviens d'un safari au Congo, j'ai grand faim.
Ah, je regrette.
Tu re-quoi? Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Tu vas ramener ce que tu viens de dire immédiatement.
Mais je n'ai rien dit.
Eh ben justement, vous n'avez surtout pas manqué de respect au prince, hein?
Au prince?
Prince royal.
Une table pour huit, c'est ça?
Neuf! J'aime encore bien ça d'allonger mes pieds sur une chaise.
Il était une fois, le film de Christian Meret-Palmer avec François-Xavier Demaison notamment. Alors, évidemment, seul le journal Le Parisien dans les pages Essonne s'excite un petit peu sur cette nouvelle. On a trouvé ça très très amusant parce que donc le prince de Monaco vient visiter ses anciennes terres parce qu'il est baron de ceci, marquis de cela, etc. Quelle est votre réaction quand vous lisez ce genre d'information, le prince en visite sur les anciennes terres des Grimaldi dans l'Essonne?
Personnellement, je repense à ce merveilleux commentaire de Sacha Guitry dans Le roman d'un tricheur, où il commente la principauté de Monaco avec une armée sympathique au possible. On voit 8 types, une petite armée marcher. Et du coup, à chaque fois que je vois Monaco, j'entends la voix de Guitry s'en moquer.
C'est ça, en fait, c'est du folklore.
Oui, oui. Mais alors, je crois que c'était du folklore et je ne m'intéressais pas du tout au récent mariage en Angleterre.
Oui.
Et mais d'où mépris pour cette espèce de royauté. ça. Et puis, à la télévision, j'ai regardé au moment où il y avait Stand By Me dans l'église.
Et vous avez pleuré.
J'ai versé ma petite larme. J'étais scotché, ému.
Je
ramène moins. Ouais.
Alors, donc, je vous donne juste une information quand même. Parce qu'on
vas-y, on sent que vous aimez ça.
Follement. Je viens d'une monarchie. Je vous rappelle qu'elle est en train de jouer. Oh, mais les écrans sont éteints.
0-0 à la mi-temps. J'ai demandé que vous étiez dans les écrans pour être concentré sur ce que vous dites.
Alors, bien que les anciens titres nobiliaires issus de la féodalité aient disparu du doigt français depuis la Révolution, le fils de Régnier III et de Grace Kelly conserve ceux de marquis de Chilly, duc de Mazarin, comte de Laugemont et baron de Massy. Ce lien historique a notamment été scellé par un mariage, voilà, près de 2 siècles et demi. Voilà qui nous rend...
Fait rêver.
Oh là là, putain, c'était mon moment Stéphane Bern. J'ai kiffé. Bruno Podalides, vous êtes aussi acteur et d'ailleurs vous jouez dans Bécassine.
Et quel rôle? Rastaqueros.
Oui, un peu mon neveu.
Vous avez kiffé aussi.
Oui, je me suis donné, je me suis bien servi.
Ah oui, tu t'es bien servi.
Il n'y a pas de raison. Alex, est-ce que ça vous dirait d'interpréter du Alex Vizorek?
Alors attention, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité.
Ah oui.
Il découvre le rôle et je ne pense pas que vous allez être déçu. Lucky Luke.
Ouais, merci. J'adore.
Parce que Jules a annoncé que le prochain album de Lucky Luke, ce serait Lucky Luke à Paris. Et donc on s'est dit, et si on prenez un petit peu d'avance. Vous êtes Lucky Luke, je suis Rentenplan. Merci l'auteur et co-auteur de ce sketch. Et puis vous allez redécouvrir certains personnages connus. On y va. Oh, qu'est-ce que tu fous là, Lucky Luke?
Mais toi, Rentenplan.
Bah, je suis venu tester les trottoirs parisiens.
Toi, tu cherches les ennuis.
Je ne tolérerai aucune déjection canine.
Mais qui c'est donc cette madame?
La madame s'appelle Calamity Hidalgo.
Vous êtes le shérif de ce village?
Si vous voulez, oui. Et ne vous avisez pas de jeter votre mégot par terre. Hein.
Sympa l'ambiance à Paris.
J'ai soif.
Pourriez-vous nous indiquer un saloon, Calamity Hidalgo?
Vous avez 10 euros?
Pourquoi faire?
Bah pour vous payer un café sans sucre.
Qu'est-ce que je vous sers, Luc? Joe Dalton, toi ici.
Ouais, mène-toi, j'ai du casque.
Oh là là, il a peur de bonne humeur, monsieur.
Dis donc. Comment t'as fait pour être embauché dans ce saloon?
On est à Panam City, je suis désagréable, méchant, hargneux, j'ai été recruté direct.
Étonnant, mais où est passé Jolly Jumper?
Alors, si vous voulez parler de votre cheval, vous n'êtes pas près de le revoir. Hein.
Quoi, Jolly Jumper est parti galoper dans la plaine?
Non, Jolly Jumper est plutôt coincé dans un embouteillage sur le périph.
Mais quelle drôle de ville.
Et encore, estimez-vous heureux que je ne l'ai pas reconverti en cheval libre.
Quand est-ce qu'on mange?
Avrel, t'es là aussi, toi.
Ouais, quand est-ce qu'on mange?
Vu votre tête, vous cherchez le Buffalo Grill.
Vous avez grillé Buffalo Grill?
Et sinon, vous n'êtes pas trop ennuyé par les Indiens ici?
Non, c'est des Pakistanais le problème, bande des roses.
Et alors sinon, qui sont tous ces croque-morts là qu'on voit partout?
Hein, vous avez vu des croque-morts?
Ben oui, là, tous ces gens habillés en sombre qui font la fête.
Ah, d'accord, non, ce sont des Parisiens.
Attention là-bas!
Mais quel est donc cet homme qui court derrière des femmes?
C'est Jean-Vincent The Kid Placé. Et lui aussi, il tire plus vite que son ombre.
Voilà, on espère que Jules fera mieux, hein, dans son album.
On espère aussi,
pas facile d'adapter comme ça les bandes dessinées.
Merci beaucoup, Bruno Podalides, d'avoir passé cette heure avec
c'est
nous.
Moi qui vous remercie.
Je rappelle que Bécassine sort en salle mercredi et que c'est l'occasion de redécouvrir ce magnifique personnage dont Juliette nous a parlé. Le film, c'est avec Bruno Podalides, Emmeline Bayard dans le rôle de Bécassine, Michel Viermoz, Karine Viard, Denis Podalides, Josiane Balasco, Vima Laponce et Isabelle Candelier, un très 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 joli casting. Casting très joli chez nous aussi, puisque nous étions en compagnie de Mélanie Bauer, Juliette Arnault, Hippolyte Girardot, Alex Vizorek, les Diables Rouges et l'équipe du Panama. Merci à eux. Nous avons aussi une magnifique équipe composée aujourd'hui d'Alexia Lacour, de Sarah Masson, de Nathalie Romero à la préparation, d'Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, Pierre-Yves de Rolin à la technique. Merci à Antoine Asdé et à Frédéric Fromet qui font des blagounettes cette semaine. Et notre magnifique stagiaire, Mathias Volant. Demain, nous recevons Richard Lornac.
Tout à fait.
Et ouais.
Le plus grand pianiste de cette station.
Et on va laisser le mot de la fin en Essonne aux habitants qui se préparent à la visite d'Albert de Monaco.
On lève les assiettes ou le service ordinaire?
Jean-Pierre, mais le service de maman!